simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine, sur l'École Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à Local à Saint-Giron, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, eh bien ce soir on va vous parler un petit peu de Notre-Dame-des-Landes, on va vous reparler de Notre-Dame-des-Landes, on vous l'avait annoncé d'ailleurs il y a une quinzaine de jours, et puis après dans un deuxième temps on vous fera le bilan de ce qui s'est passé à Toulouse le 6 et 7 juillet, c'est-à-dire le week-end dernier là, sur la défense collective par rapport aux nombreux procès qui va tomber par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Et puis aussi on fera une petite annonce par rapport à ce qui va se passer cet été à Bure. Voilà, alors on va, je crois qu'on a Gérald au téléphone. Tu nous entends?
Très bien.
Salut,
très bien.
Gérald.
Salut. Salut.
Alors, on va déjà donc, puisqu'il s'est passé quelque chose ce week-end, ça s'appelait, je crois, Zadavi. D'accord?
Zadavi, ouais,
c'est ça. Ça avait pour fonction, quelle fonction ça avait ce truc?
D'une part, ça. Ça a déjà existé l'année dernière, mais ça a pour fonction de quelque part de remplacer ce que faisait la CIPA avant l'abandon de l'aéroport. Oui. C'est-à-dire un moment au début de l'été ou pendant l'été où il y a des bilans qui sont faits sur différents thèmes de lutte, où les gens se retrouvent, les collectifs extérieurs viennent, participent souvent d'ailleurs. Et puis voit un peu où est-ce que ça en est la ZAD concrètement. Ça permet aussi de faire des tours dans les différents endroits de lutte, quoi. Et puis c'est un moment important, quoi, dans l'année, quoi.
D'accord. Et alors ça a fonctionné comment?
Ça a bien fonctionné. C'était net. Moi j'ai trouvé ça vachement mieux que l'année dernière. J'ai trouvé ça un peu reposant, et c'est pas après l'année qu'on a eue, c'est pas de trop, et c'était très agréable. Les gens on trouvait ça d'ailleurs très sympa. Après les milliers de gens qui venaient avant quand l'aéroport était toujours en projet, quoi, hein. Il y a peut-être eu 500 personnes qui sont passées sur le week-end, quoi, dans les différents lieux ou sur les deux jours, quoi, parce qu'il y avait, bien sûr, on peut toujours camper, et puis il y a différents stands de restauration, que ce soit les cantines de la ZAD, ou que ce soit les paysans du copain, ou d'autres gens qui font des petits stands, par exemple, comme un endroit comme l'Agré, là, ils avaient un stand, ils faisaient la nourriture, quoi, donc... C'est un moment très agréable où il y a pas mal d'informations qui circulent et on peut rencontrer pas mal de gens.
D'accord. Et alors, à part l'ambiance maintenant, au niveau du contenu?
Alors, le contenu, il y a eu un bilan qui a été fait. Alors, il y a eu différents thèmes qui ont été abordés. Il y a eu bien sûr, il y a eu le G7. Hein. Il y avait des animateurs de la plateforme G7, anti-G7, bien sûr, de Biarritz, qui étaient montés exprès et qui ont fait un descriptif assez développé de ce qui se passe, où en était la mobilisation, comment peut-être ça allait se passer, et où en étaient les différents points concrets, la logistique, tout ça, et les structures d'accueil, quoi.
D'accord. Ils ont réussi à trouver le lieu, en fait, parce que là, c'était pas évident.
Alors, c'est... c'est un problème, c'est que c'est combien la préfecture joue un jeu de poker menteur, de bluff et de recul et d'avancer et oui, ils jouent un peu au chat et à la souris. Et en fait, bon, le problème c'est que les gens viendront, quoi. Donc, de toute façon, à un moment donné, si il n'y a pas de choses obtenues, bon, ben, ça se passera quand même, quoi.
D'accord.
Mais après, bon, pour le moment, c'est ce qui est retenu, c'est Hendaye, comme on dit, près d'Hendaye. Il y a un terrain pour 10 000 personnes au moins pour camper. Et puis sinon les débats, les forums se feront dans le centre d'Hendaye, quoi. Et il y aura des navettes qui feront l'aller-retour, quoi, entre les deux endroits, quoi.
D'accord.
Il ne voulait pas organiser un contre-sommet dans la nature, il voulait ou dans un endroit restreint et refermé. Il voulait être au centre de la ville, quoi, de façon à ce que l'événement qui s'organise soit justement très visible, quoi.
D'accord.
Après, bon, le problème c'est que c'est un sommet XXL. Bon, les copains ont déjà connu deux moments. Il y a eu le sommet franco-africain en 94, je ne sais pas si vous vous en rappelez,
oui,
avec à l'époque de Mitterrand, quoi. On avait été stoppé bien vite. Et puis il y avait aussi en 2002, il y a eu un sommet européen. Et là aussi, il y avait eu trois jours d'affrontement à Bayonne. Donc je pense qu'ils en ont tiré quelques leçons. Et là, au niveau de Biarritz, bon, il y a une zone rouge et une zone bleue qui vraisemblablement vont être très très fliquées. Avec l'arrivée du, par exemple, avec l'arrivée de Trump, parce que maintenant il a tweeté qu'il viendrait pas. Mais bon, comme il change d'avis comme de chemise, que.
Oui, on sait jamais.
Oui, il faut rappeler.
Voilà. Normalement, il y a la CIA qui devrait prendre carrément un immeuble.
Gérald.
Pour installer tous ces services. Donc c'est vraiment un dispositif très très important. Ils ont bien sûr interdit à certaines personnes, certains appartements, aux gens des appartements de ne pas sortir à la fenêtre, de pas se pencher, quoi, de pas ouvrir carrément, quoi, hein, parce que comme il y a les fenêtres qui donnent par exemple sur l'endroit où il y aura les personnalités, quoi, bon, il y aura des snipers partout. Alors ils ont aussi essayé de, ils savent pas comment héberger les flics parce qu'il y en a tellement. Donc c'est carrément le maire de Biarritz qui a fait passer un flash du genre héberger un beau CRS. sans déconner. Et il propose de payer les habitants 2000 ou 3000 balles pour qu'ils logent les troupes, quoi.
Gérald, je voulais rappeler que l'année dernière, je crois qu'il y avait eu un sommet ou une rencontre très importante à peu près dans le même dispositif en Allemagne, et que Trump avait été particulièrement chahuté. Je crois qu'il avait dû rebrousser chemin. C'était pas l'équivalent.
C'était à Hambourg, je crois.
C'était à Hambourg. Tu crois que c'était à Hambourg ?
Je crois.
Oui. J'avoue que j'ai oublié. Mais oui. Donc peut-être il a décommandé, c'est ça ? Il a dit qu'il viendrait pas.
C'est pas mal. Ça. Tu parles de Hambourg ou de combien de Biarritz là ?
Non, je parle de Hambourg. Trump, il avait essuyé. Il y avait une telle mobilisation à Hambourg que il avait dû rebrousser chemin, quoi.
Ah, et les manifestants sont arrivés à 500 mètres du lieu de rencontre, quoi, du sommet, quoi. Mais il y avait aussi trois quartiers de la ville de Hambourg qui sont rentrés dans la danse aussi. Par contre, la répression aussi a été impitoyable. Hein.
Oui, absolument.
Il y a encore des gens qui sont en tôle encore.
Ouais. Hein.
Donc c'est pour ça que bon, a priori, sauf si c'est une marée humaine, effectivement, de manifestants, si on se retrouve des dizaines et des dizaines de milliers, ce qui va changer la donne. Parce que c'est là, en fait, de toute façon, toujours que c'est en termes de masse de manifestants. Bon, mais sinon, il faudra réfléchir à comment se passent les deux mobilisations. Il y a d'abord une partie contre forum anti-G7, avec des débats, des discussions, avec des rencontres, avec des stands aussi d'information. Ça sera du lundi 19 au vendredi 23.
Août.
Ou 24 plutôt. Et après, il y a une première manifestation le samedi, qui sera en direction de Biarritz. Et le dimanche, il y aura, en réponse à leur zone rouge et leur zone bleue, il y aura une zone arc-en-ciel avec 7 places qui seront réparties autour de la ville de Biarritz, quoi, où il y aura avec différents thèmes, quoi. Donc là, ça sera plus une. Ça permettra aux gens de développer les thématiques des luttes auxquelles ils participent, quoi.
D'accord. Et à part ça, comme débat, il y en a eu d'autres,
hein. Oui, bien sûr. Il y a eu un débat sur les Gilets jaunes, bien sûr. Il y avait des gens qui ont participé sur Nantes ou ailleurs qui étaient là. D'ailleurs, il y avait un certain nombre de Gilets jaunes nantais, et ça, c'était pas mal. Parce que jusqu'ici, les Gilets jaunes à Nantes et puis la ZAD, c'était pas forcément des grandes rencontres. Mais là, il y en avait plusieurs dizaines. Et donc, il y avait des gens qui ont essayé de faire un bilan un peu du mouvement. Quoi. Mais personnellement, j'ai pas trouvé qu'il y a eu de grandes choses renversantes, à part le fait de dire que c'est un mouvement qui a déjoué les pronostics des groupes d'extrême gauche en se comportant de façon bien plus spontanée et radicale qu'il ne l'aurait fait, quoi. Bon, ça c'est vrai effectivement si on se remémore un peu les samedis qu'il y a eu au début en décembre notamment, bien sûr. Et puis même aussi le 16 mars, sur les Champs-Élysées. Mais après, analyser, il n'y a pas eu vraiment une analyse de classe, quoi, qui a été développée, quoi. C'est plutôt une influence insurrectionnelle qui a été un petit peu mise en valeur, quoi. Bon, moi personnellement, je pense qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus, quoi, parce que sinon, par les vitrines de banque, je pense qu'il y a autre chose à faire, quoi. Mais ça, c'est un grand débat.
D'accord. Et à part ça, il y a eu d'autres débats?
Alors oui, il y a eu des petits trucs, c'était le samedi, il y a eu des informations qui ont été faites sur la ZAD, quoi, notamment au niveau des différents lieux, quoi, de la ZAD. Alors bon, par exemple, une ferme comme Bellevue, c'est une ferme qui, quand le paysan qui est parti, il a laissé le jour même, les paysans du copain l'ont investi, quoi. Et depuis, c'est une ferme qui est gérée en collaboration avec les gens du copain et qui développe, il y a le grand troupeau de la ZAD, là. C'est une forme d'humour, mais qui combine avec production laitière, production fromagère, de viande, etc., quoi. Donc là, c'était le bilan de ça. Il y a eu aussi le bilan de l'ambassade. Où est-ce qu'on en était? Parce que l'ambassade, c'est un lieu qui est censé accueillir des délégations de d'autres luttes, internationales notamment. Et cette année, ça va être vraiment le démarrage de la fonction, puisque demain soir, c'est un camp transborder qui vient s'installer avec 700 à 800 personnes et avec les gens qui viennent de la vallée de la Roya, notamment, les gens qui viennent du Pays Basque, tout ça, et qui font du travail de solidarité avec les migrants, quoi.
Comment tu l'as appelé, ce...
Le camp transborder.
D'accord.
Avec notamment aussi les assos qui bossent en Méditerranée pour sauver les gens qui sont à la dérive et qui essaient de traverser, quoi.
D'accord, ouais.
Donc là, c'est vraiment... Bon, personnellement, je trouve que c'est quand même... Ça fait plaisir, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on est sur la construction de ce lieu, et là, il va donner vraiment...
Ça devient un concret, utile, quoi.
Ouais.
Super. Concret.
Ouais. Alors, il y a d'autres choses, hein, bien sûr. Il y a du travail qui est toujours fait au niveau des naturalistes, au niveau de la ZAD, quoi, parce que, quelque part... il y a un certain nombre de critiques qui sont faites sur la ZAD en disant « Ouais, la ZAD, elle est normalisée, ça y est, il n'y a plus aucun enjeu, c'est plus radical, tout ça. » Mais ces gens-là, ils oublient qu'en fait, un des deux buts, bon, il fallait lutter contre l'aéroport, avec toute sa logique derrière, mais il fallait aussi préserver un territoire qui, par le gel des terres, était devenu quasiment un conservatoire du vivant, quoi. Parce que partout ailleurs, le bocage a été détruit, quoi. Et là, au contraire, ben, il y a toute une faune, une flore qui est maintenue.
Oui.
Et aujourd'hui que le projet d'aéroport est annulé, eh bien, le deuxième aspect de la lutte, sauvegarder le bocage avec des usages agricoles différents, ben ça c'est toujours
ouais, c'est toujours en cours et c'est le grand moment de conciliation des deux préoccupations, quoi, c'est-à-dire ce que tu viens de citer, la ferme de Bellevue par exemple qui a été reprise avec un troupeau laitier et fromager,
ouais.
Et concilier avec la sauvegarde des espèces, quoi.
Oui, oui, exactement. Et donc ça, ça c'est vraiment en jeu, quoi. Hein. Surtout que bon, par exemple, il y avait des activités aussi. Alors il y a les activités agricoles. Alors ça, ça a drôlement avancé puisque bon, la chambre d'agriculture a donné des baux ruraux à 9 ans. Ça fait quand même une garantie au niveau de l'exploitation, quoi, et des efforts pour installer une production. Et c'est plus des COP, quoi, c'est plus des conventions d'occupation précaire, quoi. Et comme il y a des négociations aussi, il y en a d'autres qui vont être signées bientôt, là. Et donc il y a vraiment un projet d'agriculture collective qui s'ancre. Il y a eu aussi dans la foulée de ça, il y a aussi des nouvelles du fonds de dotation qui ont été données. Puisque le fonds de dotation, en fait, c'était pour justement acheter des terres et faire, de façon à ce que ces terres ne soient pas comme un GFA, par exemple. Dans un GFA, on achète un mètre carré ou deux mètres carrés. Enfin, bon, il y a, en fait, c'est comment dire, un ensemble de petits propriétaires, quoi. Alors que le fonds de dotation, c'est pas du tout ça. Le fonds de dotation, justement, empêche qu'il y ait
morcellement.
Voilà, des parts, des actions et du revenu, quoi, potentiel. La personne qui veut quitter un fonds de dotation, bah, elle abandonne ses droits, quoi. C'est tout, point final, quoi. Et le fonds de dotation, en cas de fermeture, la convention, c'est de redonner justement son capital, quoi, le redonner à un autre fonds de dotation ayant la même
vocation,
la même finalité.
Oui.
Donc en fait, c'est quand même une chose qui verrouille. Justement, et qui empêche une dérive de privatisation, quoi. Et bon, il y a des gens qui critiquent ce fonds de dotation en disant, bah oui, regardez, ils commencent à brasser du capital, ils sont complètement intégrés. En fait, c'est pas du tout ça, quoi. Au contraire, c'est une façon de justement d'avoir des communs, quoi, qui soient en dehors de la capitalisation, quoi.
Oui, on peut dire à ce propos que ça ressemble fortement au principe du caillolard au Pays Basque.
Alors, je connais pas assez les principes des caillolards.
C'est-à-dire qu'en fait, les caillolards sont des zones qui sont absolument indivisibles, qu'elles doivent rester, la vocation doit rester à l'usage de la terre et aux personnes qui la font vivre, quoi.
D'accord. Eh ben oui, oui, c'est vrai qu'il y avait des je crois que c'est du côté de Saint-Engrasse, à l'extrême est de la Soule, c'est-à-dire la province la plus à l'est du Pays Basque Nord, là, où il y a justement encore des pratiques comme ça dans les années 70-80. Mm. Et où il ne fallait pas d'ailleurs couvrir avec des tuiles, parce que quand on couvrait avec des tuiles, ça devenait privé. Il fallait couvrir avec des pierres, les abris pour les bergers, quoi. Oui, donc c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est un enjeu aussi. Et puis c'est un mode d'organisation collective qui est très peu connu, quoi. Et du coup, d'ailleurs, il y a d'autres initiatives de fonds de dotation qui essayent de se lancer. Bon, dans des conditions moins favorables qu'à la ZAD, parce qu'à la ZAD, il y a quand même un rapport de force qui existe. Hein. Faut pas oublier que les délégations, elles allaient régulièrement à la préfecture, et puis qu'il y avait des négociations, il y avait des les choses n'ont pas à convenir. Tout le monde n'a pas baissé les bras face à l'État, quoi. Donc c'est ça qui était un peu décrit. Et ça, c'est quand même plutôt positif. Il y a aussi des collectifs, enfin des gens qui sont dans des activités artisanales, que ce soit de la forge ou alors des tanneries, enfin quoi, et qui bon sont progressent et au niveau de la demande de, d'avoir une comment dire une existence légale quoi, pouvoir faire leur leur activité de façon reconnue quoi. Voilà.
Voilà.
C'est déjà pas mal.
Ouais. Surtout que s'il y avait 500 personnes, bon, c'est quand même intéressant.
Oui, que ça soit... bah, ce qui est intéressant, oui, c'est ça. Il y a, bah, il y a les gens qui n'habitent pas sur la ZAD, en fait, ça leur permet de reprendre contact avec, avec ce qui se passe, quoi.
Ouais.
Surtout après l'année qu'il y a eu, quoi.
Oui. Alors, justement, on va revenir en arrière.
Ouais.
Puisque en de février à avril au moins, peut-être, ça s'est même poursuivi en mai. La gendarmerie est intervenue en 2018. Hein, la gendarmerie est intervenue à la ZAD pour évacuer tous les squats illégaux. Et il y a eu un bilan qui a été fait par la gendarmerie elle-même et qui est paru dans le Télégramme de Brest, qui, disons, est un truc intéressant tout de même. Parce que déjà, on peut dire que la gendarmerie sera présente, omniprésente au G7, puisque c'est carrément dit par les gendarmes eux-mêmes que leur structure est adaptée à ce type d'événement. Alors, je crois que la première question qu'on peut se poser, tu as certainement lu ce truc-là.
L'article du Télégramme, oui.
L'article du Télégramme. Est-ce que tu crois que c'est une fuite organisée ou pas?
Bah, je pense que ça va dans la... je pense que les gendarmes, quand ils communiquent, c'est pas par hasard. Donc, il y a à la fois des choses qui sont destinées au public, à la fois des choses destinées aux zadistes, et aussi destinées à l'État. Par exemple, dans ce, je donne un exemple, à un moment donné, ils disent qu'il y a un déblindé qui a commencé à brûler, la température est montée à l'intérieur, la peinture cloquait, il faisait au moins 70 degrés.
Oui.
Alors, il faut savoir que la brûlure commence à partir de 72 degrés, quoi. Donc, si ils disent 70 degrés, c'est pas un hasard. Ils disent la température est montée jusqu'à 70 degrés, il y avait des grenades à l'intérieur, il y avait des munitions, etc. quoi. Bon, là, on sent vraiment que la hiérarchie de la gendarmerie a fait un appel du pied à l'État pour dire, oui, au gouvernement pour dire, bon, regardez les vieux clous qu'on a, ça serait important de.
Ah ouais, tu vois ça comme ça, t'as raison.
Bah, oui, t'as raison. Parce que c'est pas possible, quoi. Si, s'il y avait eu un danger pareil, ils n'auraient pas maintenu les blindés. Surtout que dans le même temps, ils disent que l'usage des blindés là s'est généralisé avec les gilets jaunes, c'est-à-dire et ils constatent, ils mettent une phrase en disant nous constatons que comment dire l'usage de ces blindés fait que aucun élément ne tente de venir au contact.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment un effet dissuasif. Et en plus de ça, ils ont quand même une arme quand même où ils disent qu'ils peuvent. C'est une sorte de gazeuse XXL qui est capable de...
La surface d'un stade.
La surface d'un stade, oui.
Tout à fait.
Donc, par exemple, un blindé sur les Champs-Élysées, il est capable, à lui tout seul, de faire reculer 2000 personnes en gazant complètement... Enfin bon, je sais pas s'ils oseraient, hein, mais parce qu'il faudrait... Au niveau des images, ça serait vraiment... ça serait assez catastrophique pour eux, quoi, hein, au niveau de l'image de marque.
Ouais.
Mais bon, donc là, je pense que cet exemple-là illustre le fait qu'ils envoient un message au ministre. Après, il y a aussi des exemples où ils se foutent carrément de la gueule des zadistes.
Oui.
Et ils disent, oui, oh, bah, les zadistes, de toute façon, ils se levaient pas avant 10-11 heures. Alors, bon, moi, j'y étais, c'est faux. Le premier jour, la première nuit d'attaque... je parle des expulsions, hein. Je parle pas des manœuvres autour de la route des chicanes, quoi. Parce que là, il faudrait plusieurs plombes pour expliquer comment ça s'est fait. Mais je parle des expulsions, c'est-à-dire les cinq six jours de manœuvres où ils ont vraiment rasé une quarantaine d'habitations sur les 92 qui existaient sur la ZAD à l'époque, quoi. Et là, c'est faux parce que la première nuit, d'une part. On entendait des tracteurs agricoles qui ont brassé des poteaux pendant toute la nuit pour essayer de bloquer, de ralentir l'arrivée des flics. Donc ça veut dire qu'il y avait bien des paysans qui étaient à la manœuvre. Et en plus de ça, les flics ont débarqué à 3h du matin. Et à 3h du matin, toute la ZAD s'est réveillée. On est descendu en quatrième vitesse. De toute façon, on a très peu dormi cette nuit-là. Donc c'est un exemple complet de désinformation.
Oui, c'est de la propagande, quoi.
Ouais. Pour les faire... pour justement appuyer l'idée, ah bah oui, c'est des chevelus, c'est des feignasses, ils vivent d'allocation, ils sont pas capables de se lever quand les flics arrivent. Bah, c'est pas vrai du tout, quoi. Tous les matins, à 3h, c'était le branle-bas de combat, quoi. Bon, donc voilà, là c'est un autre exemple. Là c'est vraiment, ça vise l'opinion pour dire, voilà, vous n'avez rien de commun avec les zadistes.
Oui.
Bon, après, on peut détailler, hein, comment dire, dans ce rapport, ils disent une chose aussi intéressante. Ils disent que la gendarmerie a obtenu la totalité de l'opération.
L'exclusivité complète, oui.
Et ça, c'est très intéressant parce que juste après, ils expliquent qu'en fait, les gendarmes étaient en opération de 4h du matin jusqu'à 22h.
Ouais.
Ça veut dire, effectivement, parce que les policiers, je pense qu'ils ont des droits syndicaux. Oui. Et je pense que, à mon avis, ils ne doivent pas avoir la possibilité, cette flexibilité, quoi.
Tout à fait.
Oui, l'expression, c'est le statut militaire des gendarmes, entre parenthèses, grande amplitude horaire de travail possible, formation commune à tous les gendarmes, plaide en leur faveur. Le gouvernement a accepté à ce moment-là la proposition.
Donc, ils ont clairement... alors, c'est indicateur aussi du rapport entre le pouvoir et sa population. C'est-à-dire que c'est vraiment une opération de guerre, quoi. C'est l'armée, hein, la gendarmerie.
Absolument.
Oui, tout à fait.
Ça veut dire qu'ils sont capables de... Ils emploient des troupes qui n'ont pas leur mot à dire et puis qui feront exactement... Alors, ils les cadrent. Vous avez vu dans ce rapport, là, cet article du Télégramme, ils expliquent aussi que toutes les escadrons envoyés sur le terrain, pendant 24 heures avant,
oui,
ils avaient une formation de façon à ce qu'ils soient conditionnés et qu'ils soient bien conscients que c'était pas une opération
anodine, quoi.
Militaire, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de volonté de tuer de la part des zadistes, et que même si les flics ils ont tous un flingue à la ceinture, fallait pas se tromper de procédure, quoi. Alors donc moi je trouve que c'est indicateur. Il raconte des conneries aussi en disant qu'il n'y avait pas d'opération la nuit, parce que moi j'ai vu des hélicoptères de nuit avec un énorme projecteur passer sur tous les lieux d'habitation histoire de réveiller les gens avec un projecteur, quoi, qui était assez ça mettait sous tension les gens, quoi, hein.
Ouais.
Oui.
Donc ils sont tout à fait capables de faire des choses.
Oui, j'ai retrouvé le passage que tu viens d'évoquer justement sur la formation. Donc chaque escadron reçoit une formation. Au final, il y a 24 des escadrons sur 40 qui sont intervenus, soit 1800 gendarmes. Chaque unité déployée sur le terrain passe préalablement par un SAS pendant 24 heures pour recevoir un ultime pack formation, c'est-à-dire cadre légal, manœuvre prévue, rappel des règles, emploi des grenades et tronçonneuses et disqueuses. Et ça, ce sont des opérations qui, en soi, le QG, par exemple, de La Beaugeoire, tu pourras nous rappeler où c'était, c'est
alors,
50 000 euros par jour.
Oui, mais ils l'ont pas pris, hein, justement. C'est trop cher. Ils sont mis à l'école du gaz, qui est juste à côté, qui est à Saint-Étienne-de-Montluc. Et c'est... D'ailleurs, pour eux, c'était beaucoup plus adapté parce que ça leur permettait d'arriver en 10 minutes sur le terrain des opérations. Et ils l'ont pas pris, non. Mais la question aussi, c'est... Il y a un point important dans cet article, c'est qu'il y a une petite phrase où ils disent « Il n'y avait pas d'élus ni de paysans ». En fait, là, à mon avis, ils trahissent un peu leur crainte. C'est de voir la population environnante se solidariser avec les zadistes, comme ce qui s'est passé en 2012. Parce qu'en 2012, la divine surprise pour nous, anti-aéroport, c'était d'avoir vu cette affluence, quoi, de dons, de soutien et de présence aussi des gens, quoi, qui ont considérablement gêné les flics, quoi, et qui ont permis d'ailleurs que l'expulsion n'ait pas lieu, quoi. et puis de permettre la manif de réoccupation, et puis finalement, au bout de 6 ans, permettre l'arrêt du projet, quoi. Et les gendarmes ont bien noté que, soi-disant, il n'y avait pas ça. Bon, ils exagèrent, c'est faux. Il y avait des tracteurs. Il y avait les tracteurs vigilants qui étaient là, il y avait une quarantaine de tracteurs qui étaient là. Mais le problème c'est que parmi les paysans, il y a aussi différentes positions. Et là, c'était notamment la CONF, Fédération Paysanne 44, qui avait donné plus ou moins son accord du bout des lèvres. Et les gens aussi, les paysans qui avaient amené leurs tracteurs, bon, c'était à condition qu'ils ne soient pas engagés concrètement comme des chars d'assaut, ou qu'ils aident pas à mettre des barrières, quoi. Et ça c'était avoir des engins mécaniques, c'est décisif, quoi, aujourd'hui. Parce qu'en fait, toutes les barricades, elles ont été défoncées par les blindés de la gendarmerie, quoi.
Ouais.
Et donc ça rendait un peu vain tout espoir de les empêcher d'entrer, quoi.
Est-ce que tu peux nous parler justement de ces... Parce qu'ils disent effectivement, ils citent, après les imposantes barricades, assez aisément balayées par les blindés, comme ça c'est leur rapport, hein.
Oui,
les zadistes ont mis en place d'autres moyens d'obstruction, notamment des touches de piano.
Ouais, alors ça c'était assez rigolo. Ça, ils l'ont fait notamment entre le carrefour de la Saulce et puis une barricade qui s'appelait Lascar, c'est-à-dire, pour les gens qui connaissent, c'était au centre. C'est juste à côté de l'ambassade d'ailleurs. C'est au centre vraiment de la ZAD. Et en fait, ils ont découpé ils ont creusé des tranchées de 1m50, même peut-être plus même, alternées, quoi. Et en fait, il y avait que les piétons et les vélos qui pouvaient passer. Et c'est pour ça qu'ils ont copié sur la méthode vietnamienne.
Oui, elle est citée. Oui.
Et parce qu'un véhicule, en fait, s'il avançait, les essieux risquait de tomber dans les trous, quoi, et après c'est la caisse, quoi, qui est portée sur le sol, quoi, et les roues sont dans le vide, quoi. Et donc ça leur mettait il y avait des gens qui creusaient comme des taupes, là, c'était impressionnant. Et ils ont fait une série de 5 ou 6 fossés, quoi, des tranchées qui bloquaient partiellement les 3/4 de la route.
Ouais.
Et en succession, c'est très embêtant pour les véhicules pour passer, quoi.
Alors, commentaire dans ce rapport, toujours, en une nuit, ils ont creusé une tranchée de 300 mètres de large.
Oui, oui, oui.
Nous étions heureux, ils se sont épuisés toute la nuit et on a simplement contourné l'obstacle.
Oui, là, on voit clairement que l'article, il est
complaisant.
Oui, il est complaisant. C'est vraiment pour les faire passer. C'est des feignants, ils n'arrivent pas à se réveiller, et en plus de ça, ils creusent comme des crétins. C'est vrai que, je l'ai vu cette tranchée, j'y ai pas participé, mais c'est vrai qu'elle a vraiment été très mal pensée, quoi, parce que, les flics ont contourné, et puis de toute façon, c'est absurde de penser en termes statiques, parce que, de toute façon, maintenant, avec les engins motorisés, c'est fini la muraille de Chine, hein.
Oui, puis on a connu ça avec la ligne Maginot, quand même.
C'est l'atropisme français, je pense.
Oui, oui, tout à fait, c'est à ça que je pensais. C'est vraiment... évidemment. Bon, écoute, on va peut-être se quitter, à moins que tu aies quelque chose à ajouter.
Ce que j'ai à rajouter, c'est qu'il y avait pas mal de zadistes qui vont venir au G7 de Biarritz, et je pense que ça, c'est un bon signe pour la vitalité de la ZAD, que la ZAD n'est pas du tout enterrée, et qu'il y a plein de choses passionnantes qui s'y passent. Et que, en plus de ça, dans la période actuelle où les gens se posent la question que faire à la place de ce système capitaliste pourri, eh ben la ZAD est un début de réponse, un tout petit début de réponse, mais en tout cas qui démontre que la solidarité et la volonté, eh ben ça peut faire des choses super.
Superbe. Écoute, on te remercie bien.
Hein, et merci encore.
Très bientôt.
Ouais, à très bientôt.
Avant de passer peut-être à la musique, on va parler un petit peu de ce qui va se passer cet été à Bure. Puisqu'il se passe quelque chose.
Ah oui, il y a à Bure, donc il y a ça va être la deuxième édition des burlesques qui va avoir lieu le 9, 10 et 11 août prochain. Donc, pour celles et ceux qui ont déjà eu l'occasion d'y aller, on vous invite à aller sur le site de Stop Bure ou Bure, je crois, pour trouver les informations précises. Il va y avoir bien sûr plusieurs chapiteaux, une multitude de forums. Et puis des films aussi, il y a toute une programmation de films qui va être donnée, et il y aura certainement un rassemblement prévu sur les sites de Bure ou à proximité. Voilà, c'est tout ce que je peux dire parce que j'ai pas d'autres éléments plus fouillés.
D'accord. Bon, allez, on fait une pause musicale.
Ça pour nous forcer quand nous n'avions pour nous que nos poings le bon droit et puis quelques cailloux. D'abord on s'avançait en frappant dans les mains. Il y en avait parmi eux des vraies têtes de gamins. Les regards s'affrontaient face à face de tout près. Eux devaient la boucler, nous pareil on chantait. Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça. Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça. Combien ça vaut, quel est le prix de te faire détester ainsi par tous ces gens que tu connais pas, qui sans ça n'auraient rien contre toi. Tu sais, nous on n'est pas méchants, on ne grenade pas les enfants, on nous attaque, on se défend. Désolé si c'est toi qui prends. Oh,
allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça. Allez les gars,
qu'on voit jamais dans la bataille, pendant que tu encaisses des cailloux, empêche les dents, ramasse les sous. Avoue franchement, c'est quand même pas la vie que t'avais rêvé pour toi. Cogner des gens pour faire tes heures, t'aurais mieux fait de rester chômeur.
Oh, allez les gars, combien on paye, combien on paye pour faire ça. Allez les gars,
d'illusions sur la portée de cette chanson. Je sais que tu vas pas hésiter dans deux minutes à me castagner. Je sais que tu vas pas hésiter, t'es bien dressé, baratiné, mais au moins j'aurais essayé avant les bosses de te causer.
Oh, allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça. Allez les gars,
bon, eh bien, je crois que maintenant, on va vous parler un petit peu d'autre chose, quoi, il y a un lien, puisque tout à l'heure, on a fait le bilan de ce qui s'était passé ce week-end à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Maintenant, on va vous parler des rencontres nationales qui ont eu lieu le week-end dernier aussi, à Toulouse, pour une pratique collective de défense. Ça fait référence à une émission qu'on a faite il y a 15 jours exactement, pour qu'il y ait des gens qui viennent à ces rencontres. Et on a donc repris contact avec certains organisateurs et organisatrices de ce week-end pour qu'ils nous fassent un petit peu un bilan. Vous nous entendez ?
Oui.
Très bien.
Salut.
Salut. Alors, comment que ça s'est passé, alors ? Dites-nous.
Alors, dans le déroulement, donc il y a entre 60 et 80 personnes qui ont participé à ces rencontres. On a commencé le samedi matin par une présentation de la défense collective de Toulouse qui organisait en effet l'événement, et puis présenter les objectifs de ces rencontres, à savoir s'armer à l'échelle donc du pays pour l'instant face à la vague de procès qui va arriver en automne.
Ouais.
Voilà. Donc voilà, de quels outils pouvait-on se doter et ouvrir des pistes de réflexion. Et puis, comme on est certain que la solidarité et le collectif est une force, donc de renforcer les petits collectifs par une espèce de plus grand collectif à travers certains outils. Donc on a fait pour ça plusieurs ateliers, les gens sont répartis en différents ateliers qu'on avait proposés. On l'avait dit à la précédente fois qu'on s'était eu au téléphone, on vous avait présenté le programme, mais je peux le rappeler. Trois ateliers, un préparer un procès, l'autre même pas peur pour déjouer un petit peu la stratégie de peur qui est mise en place par le gouvernement comme forme de répression. Préparer un procès, même pas peur. Et le troisième, c'était
Publicisation. C'était un atelier pour sortir un petit peu justement la défense du tribunal, faire du politique, enfin dans la rue, comment on fait du soutien, comment on fait du collectif, mais vraiment comment on relaie, comment on fait des campagnes.
Très bien. Ça.
Notamment, par exemple, on donne un exemple précis, faire un compte-rendu des audiences auxquelles sont convoqués, auxquelles assistent tous les gilets jaunes, tous les justiciables, faire un compte-rendu et publiciser, dans la mesure où les gens sont d'accord, ces audiences, et ce qui permet aussi de rassurer parce qu'on connaît mieux. À partir du moment où on connaît mieux l'ennemi, on peut être plus offensif, et tout le monde n'a pas le temps d'aller dans un tribunal assister à des audiences, et ne serait-ce que de publiciser ce qui s'y passe réellement, c'est déjà donner une arme nouvelle aux justiciables.
Ouais, super ça, ouais. Alors après.
Voilà, donc ça c'était le samedi matin, ces trois ateliers. On avait à chaque fois, donc évidemment, une forme d'organisation. Les ateliers, enfin, en réalité, c'était l'après-midi, ont duré 2 heures, entre 2 et 3 heures. Chaque atelier faisait une synthèse, et le soir, tout le monde était réuni en plénière, et chacun présentait sa synthèse d'atelier.
Super. Ouais.
Et le dimanche, on a continué. Le dimanche matin, on a fait quelque chose qui était un petit peu plus sur la question de comment être offensif en manif, un petit partage d'expérience sur comment défendre les cortèges et comment rendre les cortèges un peu plus offensifs, qui était une discussion assez intéressante. Et l'après-midi, on a reparlé de la question, enfin on a parlé, parce que ça n'avait pas été abordé directement, la question du rapport aux prisonniers et comment mettre en place une espèce de campagne collective à l'échelle du pays sur une campagne de soutien par rapport aux prisonniers, à la prison et pour la libération des prisonniers. Et en fin de journée, on s'est retrouvés pour la dernière plénière et justement formaliser un petit peu les rapports qu'on pouvait avoir entre nous et justement formaliser ces outils pour que ça fonctionne entre nous et qu'on y ait gagné de la force.
On a également fait un autre atelier là qu'on a oublié de mentionner qui s'appelait Autodéfense numérique. C'est-à-dire évidemment que les outils nouveau là qu'on va pouvoir mettre en place pour être reliés les uns les autres passe par du numérique et cet atelier était vraiment bienvenu puisqu'il nous apprenait à sécuriser nos adresses
oui. Et le téléphone portable, vous en avez parlé parce que le téléphone portable ça fait des ravages au niveau de la répression.
Évidemment.
Ouais. Maintenant les gens venaient d'où? Du coin certainement.
D'un petit peu partout, du coup, il y a eu les grandes villes, bien sûr, il y a eu Marseille, Montpellier, Rennes, Paris, il y a eu aussi des plus petits bleds, Saint-Gaudens, Narbonne, Le Puy-en-Velay.
Alès, Sète,
Montpellier,
évidemment, ça on l'a dit. Donc
Lyon.
Ouais, Lyon, bien sûr. Voilà, des petits villages du Sud aussi, il y a eu des gens qui ne faisaient pas forcément partie de collectifs préexistants et qui sont venus.
D'accord.
Mais pas assez. C'est un peu ça a été la faiblesse. On est en train de faire le bilan. Là, c'est un peu la faiblesse de ces rencontres. On n'a réussi qu'à toucher essentiellement des collectifs constitués.
Oui, des gens qui étaient déjà, enfin, qui avaient déjà l'habitude de pratiquer l'antirépression. C'est vrai que ça a été un petit peu une limite du week-end parce qu'on voulait vraiment quelque chose de très, 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 très élargi. Parce que dans ce mouvement des Gilets jaunes, tout le monde vraiment a été touché de près ou de loin par la répression, hein, que ce soit par les choses les plus importantes, les emprisonnés, mais même tout un tas de personnes ont eu des amendes, ont eu des convocations, ont eu des coups de pression, ont vu très régulièrement la police. Et c'est vrai que bon, au final, toutes les personnes avec lesquelles on a bossé ce week-end, c'était des personnes qui avaient déjà une certaine pratique, une certaine connaissance de l'antirépression et de ce que constituait la répression des mouvements sociaux.
D'accord. Est-ce que vous avez abordé les réponses qu'il peut y avoir? Parce que je pensais, par exemple, la semaine dernière, on avait des gilets jaunes de Charleville qui étaient à notre antenne et qui nous parlaient de toute une forme de répression dont on n'a pas trop parlé. C'est les amendes à 135 euros.
Bien sûr qu'on a parlé de cette répression financière qui est énorme. Donc oui, on en a parlé. Et oui, bien sûr, notamment les défenses collectives qui existent, c'est un rôle essentiel que d'aider financièrement les inculpés.
Ouais. Ouais, et puis de refuser dans certains cas de payer l'amende. Je crois qu'il y a un avocat de Bordeaux qui a fait un boulot là-dessus.
Ok.
Bah, la semaine dernière, on a parlé aussi parce qu'il y avait plusieurs personnes qui sortaient du tribunal et qui sont venues justement des Ardennes, qui avaient passé 48 heures de garde à vue et qui ont été jugées en comparution immédiate. Et en fait, tous les soutiens qui étaient là, il y avait à peu près une vingtaine de personnes, n'ont pas pu assister à une quelconque audience parce qu'en fait, il n'y avait pas d'audience. C'était une confrontation avec un procureur, point barre. Les gens sont ressortis assez choqués, quoi, de non seulement de leur garde à vue, du tabassage qu'ils avaient pu subir, et puis un peu désemparés, avec simplement une date d'audience pour octobre prochain, le 8 octobre prochain. Donc on va effectivement...
Non. Alors, soit ils ont eu une compare et n'ont plus d'audience, mais en l'occurrence, ce que vous dites, quand c'est à huis clos comme ça, juste face à un procureur, c'est pas une comparution immédiate, c'est ce qu'on appelle une CRPC.
Ah, CRPC, c'est ça, oui.
Oui. Ouais. Exactly. Voilà. Voilà. Donc en fait, ce sont des gens qui ont avoué leurs actes en garde à vue. Et la justice, pour délester, pour désengorger les procès, propose une peine directement entre le proc et la personne qui a avoué, voilà, en disant qu'il va prendre moins et autres et autres.
Mais dans ce cas, pourquoi il y aurait une convocation pour octobre au tribunal? Ça me paraît pas cohérent.
À mon avis, c'est les gens qui ont refusé la comparution immédiate.
Voilà.
Ah, oui. Ouais, c'est ça, je pense.
Si c'est une CRPC, en fait, ça sera une convocation pour valider quelque chose qui a, entre guillemets, déjà été négocié, mais qui a quand même besoin d'être validé par un juge.
Ouais. D'accord. Ouais.
C'est pour ça que ça peut être en deux temps, mais c'est quelque chose d'un petit peu particulier.
Ouais.
D'accord. Ok.
Voilà. En sachant que par rapport à ça, puisqu'on en parle, nous, on recommande toujours de ne pas rentrer dans ce genre, enfin voilà, de ne pas accepter ce genre de choses, puisque comme lors de chaque garde à vue, il faut absolument rien déclarer et rien reconnaître, préparer sa défense lors du procès après avoir refusé les comparutions immédiates. Pour le préciser, hein, vu qu'on a évoqué le cas de la CRPC, parce que c'est vrai qu'en l'occurrence à Toulouse, là, il y en a eu de plus en plus ces dernières semaines, parce que les dossiers étaient de plus en plus vides, donc il foutait la pression, il faisait peur, il disait, enfin voilà, il leur faisait reconnaître et il leur disait qu'avec ça, ils sortiraient mieux. Et c'est les seules choses qu'ils arrivaient à mettre dans le dossier, ça leur permettait de mettre des peines de sursis dans ces conditions, ou voire de ferme d'ailleurs.
Mmh. Et littéralement, ça veut dire quoi, CRPC ?
Comparution sur reconnaissance de culpabilité au préalable, quelque chose comme ça.
Ah,
on reconnaît, voilà.
D'accord.
On reconnaît la culpabilité avant la comparution.
D'accord, merci.
C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu venir parce qu'on aurait appris des choses.
Alors, faut savoir que donc on va créer un blog pour une défense collective, en tout cas l'un des outils qui va émaner de ces rencontres, c'est donc un blog qui va être consultable par tous de toute la France. Par exemple, dessus, il y aura une carte avec mentionné tous les groupes de défense collective existants. C'est-à-dire, si on a un problème, on peut aller voir directement où est-ce qu'il y a un collectif constitué qui puisse nous aider au plus proche de nous. Voilà. Il y aura bien sûr ça, bien sûr des ressources, un ensemble de documents qui peuvent savoir, et notamment un glossaire. Ouais. Un glossaire juridique où tout le jargon comme ça est expliqué, il est hyper complet, il est très bien. Donc voilà, il y aura toujours ce type de ressources. On a aussi évalué que notre information ne touchait pas forcément tout le monde et n'intéressait pas forcément tout le monde, donc il fallait évoluer dans nos supports. Donc on va se tourner plus vers la vidéo, faire des petits films, des choses explicatives qui remplaceraient une lecture un peu laborieuse parfois, quoi.
Ouais, c'est intéressant ça. Très intéressant. Le blog, il porte quel nom ? Défense collective, non ?
Alors, il a, il a, il a été créé, mais là on n'a pas l'adresse en tête et va falloir le remplir, va falloir le nourrir.
D'accord. Mais de toute façon, les gens qui veulent être informés, ils tapent sur Défense Collective Toulouse, ils auront oui. tout ça.
Il y aura le lien, tout à fait.
De toute façon, par contre, un mail. Rien. Donc, non, en effet, on n'a pas grand-chose à vous dire. C'était hier. On a créé le blog aujourd'hui, mais il est vide.
Oui, enfin, voilà. Il faut laisser un peu de temps, quand même, ouais, c'est sûr.
Voilà. Et ce qu'on peut faire, éventuellement pour vous, pour vos auditeurs, c'est vous envoyer les liens.
Tout à fait.
D'autant que nos auditeurs sont aussi vos auditeurs, puisque l'émission passe à Toulouse.
Ah super.
Je voulais aussi vous parler d'un truc qu'on n'arrive pas, vraiment, même s'il y a des gens qui font du boulot là-dessus, à avoir un panorama de la répression judiciaire. Au niveau des flics, ça, on sait un peu le nombre de gens qui ont été gravement blessés, etc. Mais par contre, au niveau judiciaire, on n'arrive pas à faire un bilan. Est-ce que vous avez abordé ce problème ?
Qu'on n'arrivait pas à faire un bilan ?
Oui. Le nombre oui. de personnes qui passent, tout simplement, hein, en comparution immédiate, qui ont refusé la comparution immédiate, qui se retrouvent en prison aujourd'hui. D'autres qui vont peut-être y aller, parce que pour l'instant, ils ont 4 mois de prison ferme. Donc, comme les prisons sont engorgées, la justice attend qu'il y ait de la place. Bon, voilà, quoi. Il y a des trucs qui nous échappent totalement, quoi. Non ?
En l'occurrence, à Toulouse, on a les chiffres les plus importants, à savoir qu'il y a une soixantaine d'emprisonnés et au moins plus de 200 personnes qui sont passées devant les tribunaux depuis le début du mouvement. Et à l'échelle nationale, en discutant ce week-end, c'est vrai qu'on n'a pas fait une espèce de panorama général, mais sûrement quelque chose qu'on fera. Et c'est vrai qu'après, ville par ville, les gens savent quand même un petit peu qui est passé devant les tribunaux.
Tout à fait.
Qu'à Toulouse, on a battu tous les records en matière de répression d'un mouvement social. Hein. On vous dit en tout une soixantaine de personnes qui sont passées à Seyss, donc la prison de Toulouse, et là, il y a encore une petite vingtaine de personnes qui sont au frais.
Qui sont ici, ouais. D'accord.
Pour l'été.
Ok. Bon, écoute, on vous remercie bien, hein, vraiment bien, et puis à très bientôt.
Merci à vous.
Merci encore.
Salut. On peut peut-être parler d'autre chose maintenant. Notre technicien est parti. Le numéro. Ah, oui. Hein. Le numéro de cours alternatif de l'été est sorti. Donc, vous pouvez l'obtenir en tout simplement. En nous mettant un mail à Egrégor ou à tout simplement sur notre site. Alors, il est sorti, donc c'est le numéro d'été, juillet, août, septembre. Dedans, il y a beaucoup de choses, il fait 36 pages, hein, donc vous en avez pour votre fric. Il y a un bilan qui est fait de l'imposture démocratique dernière, avec les élections dernières. Il y a beaucoup d'articles sur la mémoire, et en particulier un retour sur la lutte de Plogoff.
Plogoff, oui, très ouais. intéressant. Oui,
et puis l'envers de Flins, c'est-à-dire un féminisme révolutionnaire à l'atelier. Il y a aussi, au niveau de la mémoire, il y a les libérateurs, pas toujours welcome les libérateurs. Ensuite, il y a ce qui se passe au niveau de la répression. Mutilation non létale et peine de prison à l'appel. C'est ce qu'on abordait tout à l'heure avec les copains de Toulouse. Ensuite, il y a des rubriques habituelles. Big Brother, vertement écolo, la rubrique économie. Ensuite, il y a bien évidemment les luttes sociales. Au niveau de la santé, urgence aux urgences. Il y a à Lille l'évacuation d'un squat 5 étoiles, entre guillemets. C'était un squat où il y avait beaucoup de migrants. Ensuite, il y a un point de vue qui est donné sur un essai d'une critique radicale de l'école capitaliste. Alors à ce niveau-là, d'ailleurs, il y a eu, pour la première fois effectivement, mais peut-être qu'au niveau national, le bac disparaissant, ça a permis à un certain nombre d'enseignants de se libérer de la contrainte idéologique de faire en sorte
que le bac se passe bien. Là, il y a eu quand même, avec le bac dernier, un certain nombre de résistances qui ont bien fait chier le pouvoir. Ça a effectivement créé un sacré débat au niveau du milieu enseignant. Mais aussi, à mon avis, hein, je suis pas forcément optimiste. C'était aussi parce que c'était la dernière fois que finalement, il y avait vraiment un bac national traditionnel comme on l'a connu depuis des décennies. Bon voilà, n'empêche qu'il y a quand même eu ce mouvement qui est loin d'être négligeable, puisque effectivement, malheureusement, ça n'a pas empêché que les choses se fassent et ça n'a pas empêché Blanquer de faire sa réforme.
Oui, puis il y a un grand article aussi sur la mobilisation au Pays Basque en août, on en a parlé tout à l'heure hein, avec Gérald, contre le G7 et son monde mortifère.
Bon, on va peut-être se quitter. Hein. Et puis, alors, pour nos prochaines émissions, les trois prochaines du mois de juillet, on ne sera pas en direct, donc ça sera des émissions enregistrées avant. Et on se retrouvera donc en direct en septembre. Donc, c'est notre dernière émission en direct avant l'été.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutiez les Grégor chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Girons et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.